Bonjour à tous, donc je suis André Berne, je suis directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour la Basse Normandie et je vais donc vous présenter un projet tout à fait passionnant et tout à fait unique en Europe et je dirais presque même d'ailleurs on verra unique dans le monde. Donc on vient de voir Poutès, ce qui va être fait à Poutès, donc c'est bien et on va voir maintenant ce qui va être fait sur la Seine. Je me permets de dire c'est mieux puisque là nous allons enlever complètement deux barrages qui sont des véritables verrous pour cette espèce qui nous est chère à tous, hein, le saumon, mais aussi pour d'autres espèces, par exemple truite de mer, anguilles, galeuses, etc. Alors, vous savez que Jean-Paul, notre ami Jean-Paul Doron là, nous a parlé du Grenelle de l'environnement, donc il y avait une promesse sur trois barrages. Donc, en tout cas, une partie de la promesse, je pense, sera tenue sur la Sélune, puisque nous allons démonter ces grands barrages. Alors, pourquoi c'est unique ? D'abord, c'est unique en Europe, puisque c'est le seul exemple connu. Alors, il y a d'autres partenaires européens dans la salle, ils me contrediront, mais c'est le seul exemple connu d'enlèvement d'un grand barrage. C'est un barrage qui fait plus de 30 mètres de haut. Bon, en Europe du Nord, on n'enlève actuellement pas beaucoup de barrages, on fait beaucoup de passe-à-passe, on enlève quelques seuils. En Europe du Sud, on a plutôt tendance à continuer à en faire. Il y a des débats actuellement sur Espagne-Portugal pour faire encore quelques barrages. Bon, ici en France, on a pris cette décision qui est, je crois, assez exemplaire. Et puis, il y a aussi un autre continent sur lequel on enlève les barrages, c'est les États-Unis. Mais eux, ils enlèvent plutôt des barrages sur des rivières de type rivière pristine, rivière sauvage. Donc, c'est pas du tout la même problématique. Hein. Pour eux, l'enlèvement de barrages, c'est quelques bâtons de dynamite et puis le problème est réglé. Chez nous, il y a des centaines de milliers de gens qui vivent dans les territoires et c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. On ne peut pas se permettre de mettre de la dynamite parce que derrière, il y a évidemment des problématiques d'érosion, des problématiques de population assez complexes. Voilà. Alors, tout ça, ça se passe où ? Ça se passe, bah, je suis désolé, c'est pas dans le bassin de la Loire, ni dans le bassin de l'Allier. Ça se passe dans, c'est même pas dans le bassin de la Seine d'ailleurs. C'est sur un petit fleuve côtier normand là-haut qui s'appelle la Sélune et qui est l'un des émissaires du Mont Saint-Michel. Bon, là, c'est la cartographie des zones prioritaires pour l'anguille. Je m'excuse, j'ai fait le diaporama un petit peu vite, mais bon, voilà. Je dirais anguille et saumon, même combat. Alors ce bassin versant, qui est un petit bassin versant, est un bassin versant qui comporte beaucoup d'ouvrages, hein, puisqu'il y en a 23 ouvrages, mais enfin les ouvrages essentiels sont les ouvrages donc de Vezin, ici là, qui est le barrage principal, et puis ici l'ouvrage de La Roche-Quibois, qui est ce qu'on appelle le barrage démodulateur, hein. Ce sont des ouvrages qui fonctionnent par éclusée. Alors c'est un système qui est génial pour l'électricité, on l'a vu tout à l'heure, hein, parce qu'effectivement quand il y a une demande, c'est le système de la baignoire, on ouvre la bombe de la baignoire, l'eau coule, on la turbine, on produit du courant. Bon, c'est très très bien pour l'électricité, c'est extrêmement catastrophique pour les poissons, hein, surtout la fermeture d'ailleurs, hein, beaucoup plus qu'à l'ouverture, puisque on a donc des variations de débit qui posent de très grands problèmes, ce qui fait qu'en général, donc on installe à la sortie un autre barrage qui démodule ses éclusées, qui va permettre quand même à l'aval du barrage de démodulation d'avoir un débit à peu près constant. Donc c'est le barrage ici de La Roche-Quibois. Bon, c'est La Roche-Quibois, quelques petits émissaires. Alors, les voilà en photo. Le barrage de La Roche-Quibois, c'est le barrage le plus ancien. Il a été construit en 1921 selon la méthode de Caco. Hein. Ce sont des barrages à voûte mince, à voûte multiple. Hein. C'est une technique qui est assez efficace, notamment qui est peu coûteuse, hein, puisqu'on économise beaucoup de béton. Mais c'est quand même des ouvrages qui sont un peu fragiles, qu'il faut surveiller de près et qui ont peut-être des problèmes de vieillissement. Ce qui peut-être, on verra tout à l'heure, explique pourquoi. Finalement, ça a été l'un des critères assez favorables à l'arrivement de ces ouvrages. Bon, il fait 15 mètres 40, il a 125 mètres de long et il produit 4 gigawattheures. Et puis voilà la bête, si je peux dire, puisque là, c'est un barrage donc, de Vezin, qui lui a 36 mètres de haut, donc ça fait partie de la catégorie des grands barrages. Hein, et il a 278 mètres en crête. Il recouvre donc une retenue, un remous de 19 km de long, qui comprend 95% des frayères à saumon de cette rivière, qui existe toujours, sauf qu'elles sont évidemment sous l'eau et sous les sédiments. Mais lorsqu'on aura fait tous les travaux, on va pouvoir donc les redécouvrir. 20 gigawattheures par an. Donc là, c'est aussi une nouveauté, c'est que ces barrages sont encore en activité. Hein. Ce n'est pas des barrages obsolètes, ce n'est pas des barrages qui ne servent plus à rien. On aurait pu les reconduire. Hein. Ils produisent encore de l'électricité. Donc c'est aussi un point à souligner. C'est donc un effort un peu considérable. Alors, le contexte réglementaire, bon, je vais vous le passer. Hein, c'est en gros, tout est classé. Hein, il n'y a pas un seul classement qui ne soit pas sur la cellule. L'un des classements qui a posé le problème historiquement, c'était une rivière clachée échelle à poissons sur les anciens termes et sur lequel il n'y avait pas de solution technique pour répondre aux obligations réglementaires et donc sur lequel il y a eu un contentieux. Ça a aussi été un facteur qui a permis d'avancer sur ce projet. Bon, alors je vais vous passer. Il faut savoir quand même qu'il y a eu à peu près 60 ans entre le classement comme rivière à échelle à poissons et la sortie de la liste d'espèces, puisque vous savez que dans l'ancien système, bon maintenant c'est plus le cas avec la nouvelle réglementation, mais dans l'ancien système, il fallait à la fois que la rivière soit classée et qu'on ait une liste de poissons pour lesquels la rivière était classée. Donc une astuce consistait à ne jamais sortir l'arrêté de liste de poissons, ce qui fait que finalement les prescriptions ne s'appliquaient pas. Donc nos ambitions, eh bien c'est l'anguille, hein, voilà les petites civelles qui se présentent, il y en a pas mal à Mont-Saint-Michel, la lamproie, la truite de mer et le saumon atlantique, qui est éventuellement la truite fario, mais c'est un enjeu bien moindre, évidemment. Alors cette action, elle s'est inscrite dans le cadre du plan d'action nationale pour la restauration de la continuité écologique, qui a été annoncé par Mme Chantal Joanneau, le 13 novembre 2009, elle ne l'a pas annoncé sur place, elle l'a annoncé à Pont-l'Évêque, mais enfin, ça fait pas mal de bruit à l'époque. Elle a donc annoncé la fin de l'exploitation des barrages hydroélectriques de Vezin et de la Roche-Quibois, avec donc la signature de la convention que vous connaissez tous, bien sûr, je ne reviens pas dessus. Il a fallu quand même, vous voyez, 4 ans pour que le préfet prenne effectivement la décision d'arrêter les ouvrages. C'était un cheveu qu'elle ne soit pas prise. Parce qu'on était quand même dans une situation, je vous en parlerai à la fin, assez paradoxale d'une décision gouvernementale prise par plusieurs ministres. Bon, c'est bien quand il y a de la continuité, mais qui ne trouvait pas de concrétisation locale à cause de fortes résistances avec un préfet qui a très très longtemps hésité avant d'envoyer, et même, pour la petite histoire, il avait essayé une première fois, il avait reçu un coup de fil d'un niveau très élevé du gouvernement, et il était dû me chercher à la poste les lettres qu'il avait envoyées. Et donc 2 ans après, il a quand même eu la possibilité, on l'a autorisé à prendre cette décision. Donc les barrages, désormais, sont des barrages qui sont donc retournés au sein de l'État, puisque la concession est terminée. Ceci dit, pour des raisons de sécurité publique, EDF donc continue leur exploitation, hein, parce qu'effectivement, l'État n'a pas les moyens de gérer ce genre d'ouvrage, et donc c'est EDF qui le fait pour l'instant. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, 1924, cellule classée au titre du régime des places à poissons, 86, donc ça fait combien 62 ans plus tard, on a la liste qui permet de rendre cette décision effective. Et cette décision n'étant pas effective, il faut qu'il y ait un contentieux juridique qui ait été fait par les pêcheurs. Hein. Et donc je salue Jean-Paul Leron, là, qui a parlé tout à l'heure de manière très, très militante, comme ça on a coutumé, mais c'est grâce à lui qu'il y a eu cette action, cette requête, et qu'il y a eu donc une décision de justice qui a été une décision de non seulement de condamnation de l'État, mais maintenant les TA ont cette possibilité de rendre obligatoire la décision demandant l'arrêtement des barrages pour 2013. Bon, ça ne sera pas fait, puisque vous allez voir que c'est plutôt 2018, mais bon, on est dans un processus qui y mène. Alors, je vous passe tout ça aussi, parce que le temps tourne. De toute façon, ces barrages étaient en sursis. En 1993, il y a eu une vidange extrêmement catastrophique. Bon, toutes ces rivières bas-normandes sont des rivières extrêmement érosives, donc il y a des quantités de sédiments tout à fait énormes qui s'accumulent derrière les ouvrages. C'est le problème d'ailleurs technique fondamental de ce dérasement, c'est qu'est-ce qu'on fait des sédiments. C'est ça qui a coûté très cher, et donc gestion vidange très très faites très vite. Bon, on comprend l'électricien, lui, il souhaite que son ouvrage marche, donc la vidange pour lui doit être la plus rapide possible, puisque tant que l'ouvrage est vidangé, il ne produit pas d'électricité. Donc vidange catastrophique avec des sédiments jusque dans la baie du Mont-Saint-Michel, gros problème, donc un peu le stress sur cette question. Et puis, la justification économique posée, parce que ce sont quand même des ouvrages qui ont été faits à une époque où il n'y avait pas d'énergie en basse Normandie, si je peux dire. Maintenant, nous bénéficions de deux centrales nucléaires, bientôt d'une troisième, que vous connaissez tous. Donc voilà, en tout cas, la région n'est pas, je dirais, déficitaire en énergie électrique. Voilà. Bon, ça, je l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Bon, je vous passe aussi tous ces petits détails, là, comment ça s'est organisé. Sachez que ça a été extrêmement compliqué et extrêmement long. Pour en venir au sujet un peu important, le sujet important, c'est celui-là. C'est que malheureusement, nous avons eu pendant une trentaine d'années un traiteur de surface, hein, un industriel qui a émis beaucoup de pollution dans le milieu, qui n'a jamais respecté ses arrêtés de DRIR, qui n'a jamais été inquiété pour cela d'ailleurs, on peut le regretter. Bref, il nous a mis des milliers et des milliers de mètres cubes de sédiments pollués, qui pour l'instant, c'est la petite tache noire, hein, ici, là qu'on voit, qui pour l'instant ne peuvent pas être, je dirais, mises à l'air libre ou ne peuvent pas faire un objet d'une libération dans le milieu. Bon, donc sur ce sujet, premier sujet. Deuxième sujet, décidément ici, la tache marron un peu moins contaminée. Donc ces sédiments, on peut les laisser sur place, on a le droit juridiquement, mais on ne peut pas les épandre. Donc le sujet de l'ouverture de ce barrage, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces sédiments, sachant qu'en gros, il y en a à peu près 400 000 mètres cubes. Est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on les transporte? Bon, solution extrêmement coûteuse et assez impossible. Est-ce qu'on les laisse, je dirais, se vidanger naturellement en faisant une vidange très très lente et puis tout ça va partir à la mer? Solution technique possible, hein, mais politiquement assez insupportable. Donc ce qui a été choisi, c'est une solution intermédiaire, c'est de les enlever, mais de les mettre sur place, c'est-à-dire, en gros, de les enlever du lit mineur, du lit majeur, de les stocker derrière des merlons. Nous allons voir tout de suite comment ça va se produire. Bon, attendez, j'avance. Ça, c'est le planning. Bon, j'avance pas là, c'est ça. Donc voilà, Vezin, l'Arche qui boit. Donc on a 230 000 mètres cubes sur Vezin, 40 000 sur l'Arche qui boit. Et puis le reste, je vous ai parlé de 400 000, hein, le reste, c'est sur les affluents. En gros, sur la partie de Livrande, là, l'affluent qui est très pollué, ça va être la méthode de Tchernobyl, c'est-à-dire sarcophage. On va les stocker là, on ne les touchera plus et on va s'arranger pour qu'il ne se passe rien. Sur le reste, on va mettre dans les zones plates des enrochements, hein, des petits merlons, si je peux dire, et avec un bateau ou avec une pelle, c'est pas encore déterminé, on va, je dirais, aller sucer les sédiments contaminés dans la zone marron, hein, et puis on va les déposer de l'autre côté de la berge, et puis lorsqu'on aura fait la vidange, peu à peu, ces sédiments vont se ressuyer, l'eau va partir, donc on a fait des études pour voir, je me dépêche, on a fait des études assez complexes pour voir si des cyanures, parce qu'il y a beaucoup de cyanures, allaient se mettre dans l'eau, bon, tout ça a été réglé. Et puis, quand ça sera bien ressuyé, qu'on aura replanté, mis de l'herbe, des arbres, etc., on enlèvera les merlons en rocher, et en gros, on aura refait la vallée. Alors ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est assez nouveau, bon, je pense que beaucoup de gens sont intéressés et actuellement nos bureaux d'études, notamment à la fois Artelia et puis les bureaux d'études aussi de EDF, travaillent sur ce sujet. Je crois qu'il y a là aussi de la matière grise à se faire, il y a aussi de la connaissance à acquérir et donc là aussi, je dirais, un intérêt peut-être aussi économique, hein, puisqu'on dit toujours l'environnement c'est une contrainte et vous nous embêtez, ben là je regrette, l'environnement n'est pas une contrainte, là c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir gagner, je dirais, des points. Parce qu'en Europe, et peut-être même dans le monde, on aura été les seuls à commencer à mettre en place ce genre de technique. Hein. Je rappelle quand même que les sédiments, c'est l'un des problèmes essentiels de l'après-barrage. Hein. Parce que faire sauter un barrage, c'est facile, hein, mais ensuite gérer ce qu'il y a derrière, c'est problématique. Et on ne peut pas se permettre dans nos pays très, très habités de lâcher tout ça à la mer. Bon, il y aura derrière la renaturation, donc bon, ça sera plus simple. On pense que ça va aller assez vite. Hein. Vous connaissez tous l'exemple de Kernan-Skylek, En 3 ou 4 ans, ça a été plié, si je peux dire. La nature a reconquis ses droits de manière extrêmement, extrêmement rapide. Bon, les effets attendus sur le milieu, c'est le bon état. Alors, je veux dire une chose aussi, là, qui est très importante. C'est que l'enlèvement des barrages, c'est pas que pour les poissons. L'enlèvement des barrages, c'est le petit plus ou le gros plus qui permet d'atteindre le bon état. Bon, je vous présente Vézin, la Roche-qui-Bois. En Basse-Normandie, on a à peu près une centaine de barrages qui sont en train d'être enlevés. On a un énorme programme d'enlèvement. Il faut dire que ça marche très bien puisqu'on paye 100%. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et sur quelques barrages, notamment sur un qui est un petit barrage qui faisait que 5 mètres de haut, on a réussi quand même sur la rivière qui stagnait en état moyen depuis des années et des années à passer depuis l'année dernière au bon état. Donc ça a été un facteur formidable évidemment pour les espèces migratrices, mais ça a été aussi ce qu'il fallait faire pour enfin atteindre le bon état, qui est, je le rappelle, une obligation européenne. Donc l'amélioration du potentiel au taux épurateur, c'est important. Hein, il faut savoir que la retenue d'eau de Vézin est régulièrement tous les étés, dès qu'il fait un peu chaud, vous avez des blooms de cyanobactéries, ce qui est évidemment extrêmement toxique, avec interdiction de baignade, interdiction d'aller sur le plan d'eau, interdiction de faire de la barque. Alors, bon, quand on nous dit qu'on va détruire tous ces usages, je dis d'accord, on va les détruire peut-être, mais de toute façon, vous ne pouvez pas les exercer, puisque une année sur deux, vous ne pouvez pas y aller, puisqu'il y a des interdictions préfectorales d'y aller. Et puis, bien sûr, la restauration maximale et définitive de la continuité biologique. C'est ne nous leurrons pas, les passes à poissons, ça marche pas très bien. Ça marche à peu près bien, le chercheur allemand nous l'a dit, sur des saumons, sur des espèces, ou des truies, des espèces qui nagent très très bien. Mais les espèces qui nagent pas, ou qui ne savent pas bien nager, les aloses, les lamproies, ou les civelles, alors la civelle, ça nage encore moins. La passe à poissons, ça ne sert strictement à rien. Donc la seule véritable solution, c'est bien l'effacement. Et les Américains l'ont compris. Il y a eu récemment un article, je peux vous donner, d'un scientifique américain qui sont toujours très en avance, ces gens-là, sur nous, qui a dit au bout de 40 ans, on se rend compte que la stratégie passe à poisson plus élevage type chanteuse, finalement, c'est pas celle-là qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir comme stratégie, c'est on va spécialiser des rivières pour faire du saumon, mais là, c'est pour faire des pêcheries professionnelles. On va enlever tous les barrages, on va renaturer ça complètement et on fera du saumon. Donc, sur la Elva rivière, ils espèrent avoir 400 000 saumons. Ils en avaient 4000 et ils en ont déjà 40 000 qui sont montés. Ils ont fait sauter deux barrages. Je vous passerai quelques photos après. Voilà. Alors cette petite photo là-bas, les spécialistes connaissent, hein, c'est les indices qu'on mesure sur la pêche électrique. Donc on fait des traits de mesure de 5 minutes. Sur la rivière, la sœur jumelle de la Céline Célacée, qui est une rivière sur laquelle il n'y a pas d'ouvrage. On a des traits à 32,65. Bon, cet été, j'ai fait une pêche électrique, on a monté jusqu'à 150. C'est-à-dire qu'on fait la pêche électrique à un trait de 5 minutes, on a 150 tacons. Donc ça veut dire le potentiel extérieur de ces rivières. Voilà. Et donc on espère, en gros, pouvoir, grâce à ça, sachant que on a vu tout à l'heure les chiffres, on espère reconquérir, en gros, 5% du potentiel français de surface de reproduction. Alors tout ça coûte évidemment horriblement cher, puisque en gros c'est un projet à 50 millions d'euros. L'essentiel des coûts, comme vous le voyez, là le 24, étant lié à la gestion sédimentaire. Alors ces coûts sont intégralement, enfin ou quasi intégralement supportés par l'Agence de l'Océan de Normandie, puisque elle finance à 100% les opérations. EDF je donne quand même une somme, significative, parce que sur les deux barrages, il y en a un qui appartient à l'État et l'autre qui appartient à EDF. Mais en gros, retenez que c'est 50 millions d'euros. Alors, on m'avait demandé, je m'excuse, je suis un peu long, mais je vais terminer là-dessus, on m'avait demandé de dire, mais comment vous y êtes arrivé, vous, là-bas, sur la cellule. Alors, j'ai essayé de mettre les quatre points importants. Le premier, il faut avoir une volonté, une énergie de faire et continuer dans le temps. Il faut savoir, sur un truc comme ça, c'est pas parce que ça a été pris au plus haut niveau de l'État que ça sera fait. Je suis désolé de le dire, mais il y a des forces de résistance extrêmement fortes, y compris à l'échelon local. Donc quand vous avez un ministre qui vous dit qu'il faut faire, que derrière vous avez des services locaux qui disent oui, on fait, mais qu'il ne se passe rien, ou qu'on met même des bâtons dans les roues, c'est un peu compliqué. Bon, il faut beaucoup de temps. Et il faut avoir une capacité de résistance aux pressions assez importante. Ce n'est pas le genre de dossier sur lequel que je vous conseille de prendre si vous voulez faire une carrière en gros dans l'administration. Hein, parce que sur ce dossier-là, il faut savoir qu'il y a quand même deux hommes politiques de haut rang qui ont demandé ma tête parce qu'ils trouvaient que j'en faisais un peu trop, alors que je me contentais d'appliquer les prescriptions du gouvernement. Bon, et heureusement, ils ne l'ont pas eu. Mais il faut donc cette continuité. Puis il faut aussi une continuité de la décision publique. Parce que comme ça va s'étaler dans le temps et que la stratégie des acteurs locaux qui sont contre sera de ralentir au maximum, donc d'étaler encore plus, si vous n'avez pas une suite de ministres ou de gouvernements qui disent qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, à un moment donné, ça va capoter. Parce que les gens sont en attente du petit signal où on va capoter. Bon, il faut aussi l'accord des principaux acteurs, parce que non seulement les pressions locales, mais les principaux acteurs sont en l'occurrence l'État, parce que c'est quand même lui qui a la décision régalienne politique, le financeur, donc en l'occurrence nous, et puis le maître d'ouvrage, bon, en l'occurrence EDF, bon, donc EDF a donné son accord, si je peux dire, je pense que, bon, je dirais pas tout, parce qu'on peut pas tout dire, surtout en public. Mais il y a eu un moment donné où les choses ont changé. Alors peut-être que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec M. Dartout. Et à un moment donné, on a senti qu'on pensait, on passait un peu d'une opposition à une acceptation. Et puis peut-être l'idée de derrière de se faire la main sur un sujet qui pourrait venir. Hein. Pourquoi pas? Après tout, on dit souvent les agriculteurs produisent de la pollution. Mais on peut leur dire peut-être vous pourriez aussi être des producteurs d'eau. Ben, peut-être qu'un jour, EDF pourrait être producteur de saumon. Après tout, il pourrait dire ben, sur telle rivière... Bon, moi, je suis électricien, mais peut-être que je vais faire sur cette rivière du saumon. Je peux, après tout, c'est pourquoi pas. L'autre sujet, c'est l'argent, évidemment. Ça ne peut marcher que, comme ça coûte horriblement cher, que si il y a beaucoup d'argent. Bon, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, on a cette chance encore d'avoir un budget annuel de 1 milliard d'euros. Donc, on a pu mettre 100% d'aide. Et ça nous permet d'ailleurs de débloquer beaucoup de sujets sur les barrages. Par rapport à nos collègues. Des autres agences qui sont un peu moins fortunées, malheureusement, c'est plus difficile pour eux, mais s'il n'y a pas 100% d'aide, vous allez voir quelqu'un, il a son barrage, il est à lui, vous lui dites, monsieur, il faut l'enlever, mais il va falloir que vous mettiez 5% de votre poche, il dit, mais c'est tout, moi, ce truc-là, pourquoi je le paierais, enfin, je veux bien, parce que je suis gentil, ce barrage m'embête un peu, je veux bien que vous me l'enleviez, mais il ne faut pas que vous me demandiez du boulot, il ne faut pas que ça me coûte. Donc, toutes les opérations qu'on a faites avec les privés, c'est ça, c'est-à-dire qu'on on fait le boulot à leur place et on paye tout. Il faut évidemment avoir des alliés locaux et nationaux, voire internationaux. Donc je remercie le NASF et je remercie les différentes associations qui nous ont donné le coup de main. Parce que, enfin, si je peux dire, il y a des associations qui ne nous donnent pas le coup de main. Et puis un point essentiel, c'est la gestion politique locale et les indispensables compensations socio-économiques. Parce que les acteurs locaux vont évidemment résister, mais c'est un principe normal, résistance au changement. Et à un moment donné, on va basculer dans une acceptation tacite. Mais par contre, ils vont exiger, et là, il faut aussi sortir le carnet de chèques, des compensations. Donc, en l'occurrence, ça va être une salle de gym, un étang pour les pêcheurs de poissons blancs, deux, trois trucs comme ça. Mais c'est ce qu'ils demandent. S'ils n'ont pas leur salle de gym, le dossier ne se fera pas. Donc, on va sortir. L'Agence de l'eau va financer une salle de gym. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.